Eh bien, nous allons commencer, je pense. Il est 19h30. Cette soirée se déroule autour d'un dossier qui a été publié par les archives de philosophie de la Révolution à l'Histoire et coordonné par Frédéric Brahmi, qui est un de nos intervenants, et dans lequel a écrit Jean-Yves Pranchère. D'autres intervenants. La genèse de ce dossier, si je peux la rappeler, au fond, était de pouvoir travailler autour de la question de l'histoire et de la pensée de l'histoire. Et au fur et à mesure de la réalisation du dossier, en tout cas, il y a quelque chose en filigrane qui apparaît, me semble-t-il, et qu'on peut poser de manière suivante. Est-ce que les grandes philosophies de l'histoire, si on pense à Hegel ou Marx, ont échoué dans la tentative de montrer l'œuvre d'une raison dans l'histoire? Et quand nous nous sommes rencontrés pour travailler sur cette question de l'histoire, le point de départ était la Révolution, la France. Et au fond, ce qui, comment dire, transparaît dans ce travail, c'est que, au fur et à mesure que le dossier avance, il ne saurait être question d'une, si vous voulez, d'une philosophie de l'histoire qui se réglerait à la manière d'une dialectique spéculative ou à la manière d'une dialectique matérialiste. Et dans ce dossier, je dirais dans la série des articles, les auteurs convoqués sont véritablement mis en scène, sont véritablement mis en dialogue. Et du coup, moi je trouve qu'on arrive à une philosophie de l'histoire qui n'est pas de type dialectique, mais qui est de mise en dialogue des différents auteurs, à partir d'une interrogation donc sur est-ce que les grandes philosophies de l'histoire, en tout cas c'est ce que nous avions dégagé en reparcourant le dossier, ont échoué. Alors, je remercie évidemment beaucoup Frédéric Brahmi d'avoir coordonné ce dossier. Je vais vous donner la parole. Le principe de nos soirées, c'est que les intervenants exposent pendant 30-35 minutes. Et après, il y a un échange entre l'auditoire et les intervenants. Je vais le présenter. Ancien élève de l'ENS Saint-Cloud, l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Directeur des études à l'EHS. Alors, en faisant un peu le parcours des travaux, bon, en 1997, la thèse Anthropologie sceptique, Paris-Nanterre, une habilitation à diriger les recherches sur intitulée Les mœurs, professeur à l'Université Franche-Comté 2003-2015, depuis 2015, directeur d'études à l'EHESS. Groupe de recherche, membre des groupes d'études sur les historiographies modernes. Et puis, deux axes de recherche, je trouve, qui sont bien présents ensuite dans un ouvrage dont je parlerai plus. La genèse, on pourrait dire, et développement des rapports entre sciences sociales et humaines d'un côté, et philosophie de l'autre, avec des étapes de Montaigne à Hume, de Hume au XIXe siècle, franco-britannique. Et puis, une question tout à fait, je dirais, assez actuelle, même très actuelle, comment les sciences sociales et la politique, 19e, 20e siècle, s'articulent entre elles, et avec dans cette articulation une interrogation sur les tensions entre volonté et vérité. Donc, des questions très, très actuelles, je trouve. Du point de vue des ouvrages, le scepticisme de Montaigne en 1997, je prends les deux bouts là, des publications, qui est un ouvrage qui a marqué et qui marque toujours. Et puis, tout récemment, l'an dernier, 2016, La raison du peuple, donc un héritage de la Révolution française, aux belles lettres. avec un parcours d'un temps qui s'ouvre le 20 juin 1792. Je trouve que c'est passionnant dans le livre de voir ce que tu dis de cette date-là. Une foule qui vient en masse à l'Assemblée nationale et qui se rend ensuite au Louvre, et puis qui se conclut, ou qui, je dirais, qui permet de passer à autre chose, le 25 février 1848, où Lamartine convainc les foules de se ranger sous le drapeau tricolore et non le drapeau rouge. Une longue séquence, donc, qui détache la République de la terreur, c'est dans les dernières pages, et, de la terreur, et surtout qui fait de la République à la fois une traduction et des foules, un peuple qui renoue avec la raison. Voilà,
je te remercie beaucoup, Laurent, pour cette invitation ce soir et aussi pour le dossier que tu m'as fait. Et je repartirai de ce que tu as dit sur le fait que Hegel et Marx, les grandes philosophies de l'histoire, les grandes figures, les deux plus grandes figures des philosophies de l'histoire, ont échoué. Et si on part d'aujourd'hui, en effet, il nous semble bien que rien n'est plus daté, rien n'est plus dépassé que la philosophie de l'histoire. L'idée que l'humanité, dans son ensemble, dans sa totalité, marche vers son accomplissement à travers l'horreur des batailles, l'idée que cette humanité se réalise douloureusement et va vers sa réconciliation avec elle-même, l'idée qu'à travers les passions, finalement, la raison s'approche d'elle-même et s'actualise, voilà ce que nous n'acceptons plus. Voilà ce que nous n'acceptons plus volontiers, ne serait-ce que parce que nous n'avons plus la naïveté de croire que l'histoire est orientée vers une fin, vers laquelle elle progresserait. Et si nous ne croyons plus volontiers à ces grands récits universels de l'histoire, c'est parce que l'histoire elle-même s'est chargée de nous déniaiser, d'une certaine manière. L'idée que l'histoire a un sens rationnellement assignable, qu'elle a une signification et suit une direction, cette idée qui est au cœur, donc, qui constitue le cœur de ce qu'on appelle philosophie de l'histoire, cette idée qui a été tellement prégnante au XIXe siècle, eh bien, le XXe siècle l'a radicalement déconstruite, tant par le cours des événements que par la constitution de la discipline historique elle-même, qui s'est instituée contre la philosophie de l'histoire. Alors, Bernard Bourgeois écrit quelque part que, selon Hegel, je cite, l'histoire est la dramatisation du concept. La formule est magnifique, je trouve qu'elle formule très justement, je dirais, l'idée même d'une philosophie de l'histoire. Si on croit qu'il y a une philosophie de l'histoire, si on est partisan de la philosophie de l'histoire, alors on pense que l'histoire n'est rien d'autre que la dramatisation, la mise en œuvre, la mise en scène du concept, c'est-à-dire de la raison. Et cela dit tout. Cela dit en fait que la philosophie de l'histoire plie les faits et les événements au système, qu'elle réduit la réalité à n'être que la mise en scène d'une pièce écrite depuis toujours par on ne sait quel auteur, et qu'elle ne sélectionnera bien sûr dans le passé que ce qui confirme ces a priori spéculatifs, en minorant ou en niant tout simplement tout ce qui pourrait aller contre. Or, les faits sont réfractaires au concept, et l'histoire notamment, au XXe siècle, s'est avéré si tragique qu'il est devenu très difficile d'y voir la réalisation de la raison. Après Verdun, après Auschwitz, après Hiroshima, il devenait non seulement impossible, mais en fait indécent de faire entrer à toute force l'histoire dans le système, de résorber l'événement dans l'idée. À ne considérer que l'histoire occidentale ou même européenne, les faits se sont chargés, et à quel prix, de démentir le projet même d'une philosophie de l'histoire, de le démentir et même de le rendre obscène, un peu comme les théodicées sont obscènes quand on les sert à Job sur son fumier ou à une mère qui a perdu son enfant. Mais que dire si l'on considère non plus l'histoire occidentale, hein, mais l'irréductible pluralité des processus historiques non occidentaux. Ça aussi, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus nier du point de vue de la Chine, de l'Inde ou du Japon. Des récits historiques se constituent qui ne sont pas susceptibles d'être intégrés dans notre récit occidental. Alors, parallèlement à cette invalidation de la philosophie de l'histoire par l'expérience historique du XXe siècle, la science historique s'est constituée dès le XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, comme une discipline dotée de sa méthodologie scientifique, laquelle méthodologie rendait impossible de se fier niaisement au grand récit des philosophies de l'histoire. Alors je sais bien que la question de savoir dans quelle mesure la discipline historique est effectivement une science est terriblement délicate, ne serait-ce que parce qu'il est à peu près impossible de déterminer absolument un régime de causalité, d'explication causale en histoire. S'il y a une science historique, son postulat fondamental est que le présent résulte du passé, et que la connaissance du passé est nécessaire à la compréhension du présent. Mais dès lors qu'on veut dépasser cette proposition un peu triviale, d'une trop grande généralité, dès qu'on veut dépasser, je dirais, l'intuition de bon sens, hein, ou l'intuition de sens commun, qui veut qu'aujourd'hui soit conditionné par hier, et que, par exemple, on ne prend pas grand risque en affirmant que la France d'aujourd'hui ne serait pas tout à fait la même si elle n'avait pas été un empire colonial, les problèmes commencent. Comment, en effet, déterminer, dans le continuum infiniment riche de l'histoire, les facteurs efficients d'un événement? Comment savoir, par exemple, si oui ou non, le conflit franco-allemand sur l'Alsace fut une cause de la Première Guerre mondiale? Quel historien va prendre le risque de le dire? Il faudrait, pour s'en assurer, que l'on puisse revenir à la situation de 1914 en éliminant le facteur, en le supposant réglé, par exemple, hein, par un référendum, et que l'on puisse voir alors si oui ou non il y aurait la guerre, ou une autre guerre. Mais justement, l'histoire, contrairement à d'autres sciences sociales et humaines, hein, l'histoire n'offre pas la possibilité de telles expériences. On ne va pas remonter en arrière pour rejouer la scène en faisant varier les facteurs. Et donc, on ne peut jamais s'assurer de l'effectivité d'une cause. Et comme le second principe de la science historique est celui, après celui qui affirme que le présent résulte du passé, et qu'on ne fait pas d'histoire-fiction, hein, c'est-à-dire qu'on ne raconte jamais ce qui se serait passé si telle chose n'était pas arrivée, l'historien sérieux, l'historien de métier, s'interdira l'uchronie, c'est-à-dire qu'il refusera d'écrire ce qui se serait passé si la France et l'Allemagne avaient été capables de régler diplomatiquement et politiquement la question alsacienne avant 14. Alors je ne dis pas ça pour mettre en doute, hein, évidemment, l'ambition scientifique de l'histoire, mais tout au contraire, pour expliquer que si déjà l'historien de métier est à juste titre extrêmement prudent quant à la causalité en histoire, s'il prend un nombre incroyable de pincettes et de précautions avant d'affirmer que ceci est la cause de cela, alors, à plus forte raison, hein, l'historien de métier sera-t-il réfractaire devant les grands récits, hein, et les grandes fresques philosophiques à vocation universelle, hein, qui profèrent des propositions qui ne sont pas même susceptibles d'un quelconque contrôle scientifique. Bref, la rigueur méthodologique de l'histoire comme science invalide, hein, jusqu'au projet même d'une philosophie de l'histoire. Alors je ne vais pas continuer à lister les motifs qui expliquent la caducité de la philosophie de l'histoire. Je prends simplement acte du fait que, à ma connaissance tout au moins, ni chez les historiens, ni chez les philosophes, on ne trouve plus guère de philosophie de l'histoire à prétention explicative, totale et universelle. Et pourtant, il n'est peut-être pas si facile que ça de se dégager, je dirais peut-être non pas de la philosophie de l'histoire, mais d'une idée de la philosophie de l'histoire. Ou de l'idée que l'histoire ait un sens. Il n'est pas si facile de se détacher de cette idée, comme en témoigne la résurrection étonnante après la chute du communisme, hein, sous la plume du philosophe Francis Fukuyama, de la thèse hegelienne de la fin de l'histoire. Vous vous souvenez, on est tout de suite après la chute du mur de Berlin. Le monde communiste s'est effondré et la planète entière semble aller vers, dans la même direction, c'est-à-dire le libéralisme démocratique. Et de fait, entre le 9 novembre 1989 et, disons, le 11 septembre 2001, il a pu sembler plausible qu'un consensus se faisait jour à échelle mondiale sur le fait que la démocratie libérale et capitaliste et son gouvernement représentatif étaient décidément le mode d'organisation politique universelle, qu'on allait vers ça. C'en était fini du conflit, du sang, des luttes sanglantes, nous allions tous coopérer à l'avènement de la liberté mondiale, et c'est ce qu'on était en train de voir avec l'effondrement du communisme. Le seul fait qu'à la fin, alors évidemment, le 11 septembre 2001, dit, la fête est finie. Le seul fait qu'à la fin du XXe siècle, on ait pu avancer la thèse que l'histoire était finalement en train de s'accomplir sous nos yeux, que le processus de civilisation arrivait, était en train d'arriver à son terme, puisque le mal communiste, en s'effondrant sur lui-même, était supposé d'abord reconnaître, puis rejoindre le bien libéral, la liberté occidentale devenue universelle, eh bien ce seul fait-là en dit long, en fait, sur la permanence du schéma, du sens de l'histoire. Et peut-être serions-nous bien inspirés, au lieu de moquer, comme tout le monde s'est empressé de le faire, la hâte de Fukuyama, de la traiter, cette hâte, comme un symptôme. Un symptôme, au fond, du principe espérance. Car si vraiment le dieu histoire est mort, comme on aime à le penser, alors, Francis Hartog, qui a écrit un beau livre sur les régimes d'historicité et qui a développé le concept de présentisme, François Hartog a raison dans son diagnostic. Le présent est présentiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Hartog, nos contemporains, c'est-à-dire nous, ici, en Occident, nous ne nous rapportons plus ni au passé, ni à un avenir quelconque pour déterminer le sens de nos actions. Nous ne nous rapportons qu'au présent, c'est ça le présentisme. D'une part, il est vrai que nous cultivons la rupture, en ce sens que, ça me semble indéniable, nous avons massivement cessé de faire de la tradition en tant que telle la source légitime de l'autorité. Et l'on peut dire à cet égard que nous faisons nôtre le mot magnifique du révolutionnaire Rabaud de Saint-Étienne, mot où je vois avec Burke l'expression parfaite de l'idée moderne. Rabaud disait « Notre histoire n'est pas notre code ». Mais ce geste de rupture avec l'autorité du passé, nous ne le faisons plus, contrairement à Rabaud et aux révolutionnaires qui rompaient en effet avec le passé, ce geste de rupture, nous ne le faisons plus pour édifier un code rationnel. Nous ne le faisons plus dans une visée instituante. Nous ne le faisons plus, nous le faisons sans autre but que de le faire. Car, et c'est cela qui est nouveau d'après Hartog, si on suit la thèse de Hartog, et c'est cela qui définit le présentisme, nous ne nous rapportons plus à aucun avenir, nous ne nous situons plus dans l'horizon d'une promesse. Alors que les révolutionnaires, eux, se situaient. Ils rompaient, mais ils se situaient dans l'horizon d'une promesse. Ils n'étaient pas présentistes. Nous vivons, ou nous vivrions donc, si Hartog avait raison, c'est-à-dire si le dieu histoire était en effet mort, nous vivons dans un temps tout entier résorbé dans le présent, parce que la conscience critique, ayant perdu son rapport au passé, ne sait plus envisager l'avenir. C'est alors selon l'expression de Philippe Nye, dans un beau livre sur l'expérience de la perte au moment 1800, la fête de l'immédiat. Fête de l'immédiat qui se fait très vite terreur de l'immédiat, puisque l'injonction radicale à transgresser revient à faire de l'antinorme la seule et par suite la plus implacable des normes. Injonction à transgresser, entendu comme injonction à s'arracher pour s'arracher, à innover pour innover, à transgresser donc pour transgresser. Incapable de proposer, la rupture se prend alors elle-même pour objet de sa visée et elle devient sa propre fin et débouche sur un présent qui n'a plus d'autre horizon que lui-même. Alors le dieu histoire est mort, certes, mais si le dieu histoire est mort, Hartog a raison. Et il n'y a pas à s'indigner du présentisme, c'est notre condition. La question est simplement de savoir, je pense que Hartog a tort, la question est simplement de savoir si nous pouvons faire si facilement que cela notre deuil du dieu histoire. Aussi n'était-il sans doute pas inutile de revisiter la vieille et dépassée philosophie de l'histoire, non dans le but de la réhabiliter, mais bien plus modestement, pour savoir si c'est à bon droit que nous en sentons privés de cette philosophie, ou s'il faudra bien se résoudre au présentisme, qui est la forme nouvelle et le nom nouveau du nihilisme. Alors le numéro des archives dont Laurent m'a confié la réalisation, et je le remercie d'ailleurs non seulement pour sa confiance, et non seulement pour la liberté totale qu'il m'a laissée, qu'il m'a faite, mais aussi pour sa participation à la construction et à la compréhension de ce que nous étions en train de faire tout au long des années pendant lesquelles nous avons préparé ce dossier. Le numéro des archives donc dont Laurent m'a confié la réalisation n'a évidemment pas la prétention de répondre à la question du sens de l'histoire. Ce serait grotesque. Et de manière générale, d'ailleurs, nous avons essayé d'éviter tous les gros mots que je viens d'employer, y compris celui-même de philosophie de l'histoire, qui n'est pas si présent que ça dans le syntagme, qui n'est pas là. Alors il faut le dire que le corpus que nous avions choisi de mettre en lumière nous invitait à cette déflation, car nous avons décidé de nous concentrer sur la philosophie de l'histoire à la française, pas à l'allemande, à la française, c'est-à-dire à cette philosophie de l'histoire telle qu'elle s'est élaborée en France au XIXe siècle. Et ce choix a été motivé notamment parce que, justement, cette tradition-là, la tradition française du XIXe siècle, s'est tout entière organisée autour d'un problème, d'un seul et unique problème bien défini, rendre la Révolution française intelligible. Et donc, elle s'organisait non pas autour d'un concept, mais autour d'un événement, justement. Partir de l'événement révolutionnaire, regarder comment les hommes du XIXe siècle se sont débrouillés avec cet événement révolutionnaire, c'était faire le contraire de ce que fait la philosophie de l'histoire, entendue comme dramatisation du concept. Car c'était précisément partir d'une tragédie sans concept, justement. D'une tragédie en quête de son intelligence, et non pas d'une mise en scène des aventures internes à la raison. Alors en France, l'histoire s'est comprise et s'est écrite sous l'impératif de dégager le sens de la Révolution. C'est leur seule question, c'est leur unique question, au moins jusqu'à l'histoire de la Révolution française, de Jaurès, mais en fait, jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agit pas en France de trouver comment la raison travaille sous les passions. Il ne s'agit pas plus d'articuler une sociabilité pathologiquement extorquée et laborieusement instituée à l'absolu moral. Il s'agit de tout autre chose. Il s'agit d'un problème d'historien, justement. Comment la Révolution française a-t-elle été possible? Quel en fut le sens? Et pourquoi ce sens, s'il en a un, s'est-il manifesté au travers d'événements aussi inouïs, aussi énormes que le furent ceux de notre Révolution. C'est cette question que se posèrent les hommes qui, en France au XIXe siècle, pensèrent l'histoire. C'est en méditant l'événement révolutionnaire qu'ils en vinrent à penser l'histoire en affirmant l'historicité radicale de l'être humain, de l'esprit humain. Et c'est cette unité, c'est l'unité de cette question qui justifie qu'on ait traité ensemble dans cette livraison des archives des auteurs par ailleurs aussi différents que Bonald des Maistres, Pierre Leroux, Saint-Simon, Michelet ou Quinet. Alors qu'avait donc de si extraordinaire la Révolution française pour enclencher un si prodigieux effort théorique? La Révolution française a été pensée au XIXe siècle comme une origine. Pas comme un moment, pas comme un commencement, pas comme un point de départ, mais véritablement comme une origine qui avait en elle-même sa propre raison explicative. Elle a été pensée comme une création ex nihilo. Comme le dit Paul Petitier, une grande spécialiste, la grande spécialiste de Michelet et de l'histoire au XIXe siècle, elle le dit dans une phrase que je trouve parfaite et donc que je vous cite, la Révolution apparaît comme cet événement, apparaît au XIXe, comme cet événement mère qui permet au siècle de penser sa nouveauté et son origine, mieux de faire de sa modernité un objet de discours en la rendant problématique. La Révolution est donc l'horizon de tout discours que le XIXe siècle tient sur lui-même. Mais pourquoi ? Pourquoi la Révolution est-elle l'horizon de tout discours que le XIXe siècle tient sur lui-même ? Il nous faut comprendre, c'est ce qu'essaye de mettre au jour l'ensemble des articles du numéro, il nous faut comprendre pourquoi la Révolution française a été érigée en origine à partir de laquelle l'histoire, ou plus exactement l'historicité, j'entends par là le fait que la condition humaine est tout entière faite de temporalité, c'est une thèse radicale, il n'y a pas de nature humaine qui se réaliserait dans l'histoire, dont l'histoire serait un arrachement. Il n'y a pas de nature anhistorique, de socle anhistorique naturel de l'esprit humain. L'esprit humain est tout entier fait de temps. C'est la grande thèse, c'est pas allemand, je pense, c'est la grande thèse de la philosophie de l'histoire à la française. Et cette thèse, elle est déduite, ou plutôt elle est découverte dans la réflexion sur la Révolution française. Donc il nous a fallu comprendre pourquoi la Révolution française a été érigée en origine, à partir de laquelle l'historicité a émergé, est apparue, à la fois comme une évidence et comme un problème. Et la réponse n'a rien de mystérieux, en vérité. L'histoire, entendue comme historicité radicale de l'esprit humain, est née comme une réaction à la Révolution, parce que la Révolution a été interprétée, à tort ou à raison, ça n'est pas le point, mais elle a été massivement interprétée comme une destruction de la société, de toute société, et bien pire, comme la suppression du temps. C'est très étrange, mais tous les auteurs nous disent la Révolution française a supprimé le temps, carrément. Elle a supprimé la temporalité elle-même. Elle a voulu bâtir une société hors temps. Une société purement rationnelle. Et la terreur est la grande terreur, donc 93-94, la terreur prouvait à ceux qui venaient après la Révolution française qu'il avait que Si l'on devait terroriser les hommes pour les élever aux principes éternels et universels, anhistoriques, purement rationnels du droit, s'il fallait terroriser les hommes pour cela, c'est qu'ils n'y venaient pas d'eux-mêmes, et s'ils n'y venaient pas d'eux-mêmes, c'est parce que l'étoffe même de leur esprit était faite de coutumes, de durée, de longue durée. Ils découvrirent donc, réfléchissant sur la terreur comme suppression du temps, qu'il n'y a pas de nature humaine originelle, anhistorique, à laquelle on pût reconduire les hommes une fois nettoyés de la rouille des siècles. Ils découvrirent donc qu'il n'y a pas de rouille des siècles, mais seulement la profondeur infinie du temps de l'histoire, dont nous sommes faits. Notre substance est histoire, et pas nature. C'est donc parce qu'elle était censée avoir aboli la durée historique que la Révolution révéla, comme malgré elle, dans la tragédie de la terreur, la nature substantiellement historique de l'esprit. Et c'est ainsi que l'histoire est née du sein même de la Révolution. Alors, vu d'aujourd'hui, cela peut sembler étrange, hein, tant nous sommes habitués à inscrire la Révolution dans un continuum historique, tant les historiens l'ont exploré, expliqué, et tant, surtout, nous continuons à nous situer par rapport à ce qu'elle a inauguré, hein, c'est-à-dire, comme le dit magnifiquement Michelet au début de son histoire de la Révolution française, hein, ce qu'elle a magnifiquement inauguré, c'est l'avènement du droit. L'avènement du droit, c'est ça la Révolution. Et depuis, nous vivons, à moins que nous ne croyions vivre, mais si nous croyons vivre, c'est que d'une certaine manière, nous vivons, puisque nos croyances font partie et font nos vies. Nous vivons, et c'est un rare et hélas fragile, Jean-Yves, on sait quelque chose, bonheur, hein, sous la règle du droit, qui a donné lieu à beaucoup de procès. La règle du droit, la règle des droits de l'homme, nous vivons dans un état de droit, et la Révolution marque pour nous, hein, ce moment fondateur et héroïque du projet d'autonomie qui nous définit. De sorte que la réussite même de la Révolution française, hein, nous a fait oublier, au fond, la puissance du traumatisme qu'elle provoqua. Or, dès qu'on se rapporte aux témoignages massifs et aux premières réactions intellectuelles et savantes qu'elle a suscitées, la Révolution apparaît sous un tout autre jour, hein, que sous celle de l'inauguration héroïque du droit, de l'avènement du droit. Elle apparaît aux yeux de ceux qui en firent l'expérience ou qui la fantasmèrent, hein, aux yeux des héritiers, comme une expérience de destruction radicale de la société et de l'esprit, non par ses excès, mais par ses principes mêmes. C'est ça qui compte. C'est ça le traumatisme, hein. C'est que la terreur n'est pas un dérapage, n'est pas une confiscation par une poignée de fanatiques hallucinés, genre Robespierre et Saint-Just, des principes des Lumières. La terreur est terrifiante et traumatisante parce que c'est les Lumières réalisées. Ils appliquaient les Lumières. C'est comme ça qu'on interprète la terreur, hein, au début du XIXe, y compris à gauche. Pendant longtemps, la Révolution fut réduite à la terreur. On ne voyait rien d'autre que la terreur. Et la terreur était donc elle-même comprise non pas comme un méchant moyen de réduire les ennemis, non pas comme du machiavélisme, si vous voulez, hein, de la part des terroristes, comme on disait alors, mais comme le terme nécessaire où les principes de 89 devaient fatalement aboutir. Tout constituant est gros d'un conventionnel, hein, dit Rivarol, ce qui veut dire, en gros, que la guillotine se cache au fond de la Déclaration des droits de l'homme. C'est ça que ça veut dire. Émanant de la logique même des principes révolutionnaires, la terreur ne se serait jamais arrêtée d'elle-même. Et si la Révolution avait continué sur son air, il ne serait plus resté de vivant que le bourreau. Telle était la croyance, hein, généralement partagée au lendemain de la Révolution, croyance qui a été ravivée, d'ailleurs réactivée au moment du communisme, du goulag, hein, etc. Les discours disant que le totalitarisme communiste est inscrit dans la théorie même du marxisme ne font que répéter, hein, mais tel quel, les discours contre-révolutionnaires, mais aussi progressistes, hein, ou libéraux, qui disaient que la guillotine et la terreur étaient inscrites dans les principes mêmes de la philosophie des Lumières. Alors, il faut bien comprendre la série des réductions incroyables pour un historien d'aujourd'hui, hein, auxquelles la Révolution a été soumise, si l'on veut saisir comment l'histoire s'est écrite en France au XIXe siècle. Réduction d'abord de la Révolution à la terreur, hein, je viens d'en parler, seul compte la terreur. Réduction de la terreur à la philosophie des Lumières, la terreur c'est la philosophie des Lumières, dont on croit alors généralement cette philosophie des Lumières, cette terreur qu'elle est l'application mécanique et fidèle. Réduction des Lumières au scepticisme, ça aussi c'est étrange pour nous, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ils entendent par scepticisme au fond un rationalisme abstrait qui tourne à vide, hein, qui s'est séparé de, qui a fait sécession du par rapport au réel. Et enfin, réduction du scepticisme lui-même au nihilisme, un mot forgé à l'époque. Nihilisme en ce sens que le scepticisme ou la raison qui tourne à vide, hein, se retourne en fait contre la société qu'il juge illégitime et la détruit sans être capable de pouvoir la remplacer par rien puisqu'il est une rationalité vide. Hein. Il n'a pas de dehors. Alors à partir de là, vous voyez, donc, on comprend que dans un tel cadre d'interprétation que eux, au début du XIXe siècle en France, avaient constitué de la Révolution française, on comprend qu'elle leur est apparue inintelligible, qu'elle est semblée hors nature et même hors causalité. Hein, c'est ce que veut dire Maistre quand il dit que la Révolution est satanique. Impossible selon les lois de la nature. La Révolution n'était pas comprise banalement comme une stasis, hein, comme une convulsion si vous voulez, hein, comme l'histoire en avait tant montré. Elle n'était pas simplement comprise comme une rupture, hein, c'est-à-dire le passage brutal et violent d'un monde à l'autre, ou l'institution d'un nouveau monde, comme on en avait vu en Angleterre au XVIIe siècle, hein, ou avec l'indépendance américaine au XVIIIe. Non, elle n'était pas tant perçue comme la fin d'un monde que comme la fin du monde. Elle n'était pas perçue comme une rupture, si vous voulez, mais comme la rupture. Comme la rupture même du monde, comme le schisme du monde. Bref, comme l'apocalypse. Elle a été vécue comme une apocalypse. Alors parce que nous avons oublié à quel point l'expérience fut bouleversante, hein, nous avons tendance à voir dans toute cette emphase apocalyptique que je viens de vous résumer et qui est très massivement présente, hein, dans les textes, jusque dans les textes de la première moitié du XIXe siècle, nous avons donc tendance à voir dans toute cette emphase apocalyptique une grandiloquence, hein, de pas trop bon goût. Mais quand on songe que Michelet encore, avec un recul de 60 ans, tombait physiquement malade et vomissait quand il décrivait les noyades des prêtres à Nantes ou les guerres de Vendée, et quand on songe que Carlyle, dans sa splendide histoire de la Révolution française, écrivait juste avant 1840 que le monde tremble encore d'effroi au seul nom, hein, de la Convention, Horesco Referens, les cheveux se hérissent rien qu'à entendre le nom de la Convention, on est quand même 50 ans après la Convention, on voit bien qu'il s'agit de tout autre chose que de grandiloquence, en fait. Donc il faut prendre au sérieux, et c'est le pari, et nous étions tous d'accord évidemment, hein, là-dessus, parce que c'est le cœur, je vous parle de ça, parce que c'est le cœur en fait, hein, du numéro, nous avons tous pris au sérieux l'effroi que suscita la Révolution, réduite à la terreur. Et il faut en tirer toutes les conséquences de la prise au sérieux de cet effroi. Aux yeux des hommes du XIXe siècle, la Révolution française avait bel et bien réussi à faire advenir le règne de la philosophie, comme elle s'en vantait elle-même, et ce règne s'était avéré produire immédiatement, l'auto-extermination de la société, le suicide de la société par elle-même, ce ne sont pas des expressions de Bonald ou de Maistre, ce sont des expressions de Michelet et de Lamartine, qui sont des partisans de la société, de la révolution. Bref, la révolution, ce n'était pas les lumières trahies, c'était les lumières accomplies. Les lumières réalisées. Et les lumières réalisées, c'était la guillotine. Et la guillotine aurait tué tout le monde. Tout le monde y serait passé. C'est-à-dire que c'est que les lumières, c'est le suicide du peuple par lui-même. Alors, si l'on voulait sauver la révolution, son sens et sa promesse, il fallait d'abord la réinscrire dans l'histoire. Il fallait la désataniser. Et c'est ce qu'ont fait les auteurs dont nous nous sommes occupés, Leroux, Saint-Simon, Quinet, Michelet. Malheureusement, le manque de place nous a empêchés de... Il a fallu choisir, hein, ça a été douloureux. Nous aurions dû, si nous avions pu, parler de Comte, de Chateaubriand, de tout un tas d'autres auteurs formidables qui ont des théories extrêmement élaborées de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce qu'ont fait les auteurs que nous avons choisi de traiter, hein, c'est ça, c'est réinscrire l'histoire, la révolution dans l'histoire sans la banaliser, sans la diluer dans le continuum historique, c'est-à-dire en maintenant sa dimension de rupture. C'était ça la difficulté. Hein, réinscrire la révolution dans l'histoire sans nier sa dimension de rupture. Mais pour montrer qu'en arrière de toute l'horreur qu'elle avait engendrée, elle ne marquait pas la fin du monde, comme le croyaient les contre-révolutionnaires, mais bien le seuil sanglant, certes, mais le seuil du nouveau monde. Il fallait donc prouver qu'elle n'était pas nihiliste, mais créatrice. Il fallait prouver que la création ex nihilo était légitime, que la révolution faisait véritablement advenir quelque chose d'inouï et de nouveau, mais qui n'était pas réductible au nihilisme. Et pour cela, il fallait montrer que le droit qu'elle instituait pour la première fois dans l'histoire des hommes, en seul souverain légitime, le droit n'était pas dissociatif. Car les droits de l'homme ont été pendant longtemps, non seulement par la droite, mais par la gauche, par les saint-simoniens, par les positivistes, par les marxistes, les droits de l'homme ont été pendant longtemps considérés comme un dissolvant social, comme l'expression idéologique, dirait-on, du triomphe de l'individu égoïste, souverain, de l'homme séparé, comme dira Marx. Et pour les contre-révolutionnaires, le fait que les droits de l'homme aient abouti à la terreur valait condamnation du principe même de l'autonomie. Vous avez voulu l'autonomie, voilà ce que vous avez. Hein, vos droits de l'homme, dira Burke dès 81, vous aurez des gibets au bout de chaque allée. Donc ça veut dire que l'homme ne peut pas être autonome. Si vous en faites le souverain, vous en faites le destructeur. Parce que vous le divinisez, mais qu'il n'est qu'un homme. Donc la terreur prouvait par ses actes, pour les contre-révolutionnaires, que le sens même de la révolution était mauvais, mais les partisans de la révolution, et ils étaient nombreux bien sûr, les libéraux, les républicains, les socialistes, les partisans de la révolution devaient quant à eux sauver le sens de la révolution, l'avènement du droit disons, malgré ses actes, ou contre ses actes. Et ils admirent, sous l'effet de ce que Jean-Yves Prancher a si bien nommé la contrainte contre-révolutionnaire, ils admirent ces socialistes, républicains et libéraux partisans de la révolution et qui voulaient en sauver le sens, ils admirent qu'en effet, la terreur ne pouvait pas s'expliquer par les seules circonstances, la guerre, les ennemis, etc., mais que la terreur émanait bel et bien d'un défaut de théorie. Il concède ça aux contre-révolutionnaires. Ou ce qui revient au même, que la terreur émanait d'un excès de théorie abstraite, et par suite sceptique. Donc à part les contre-révolutionnaires, et dans une moindre mesure les libéraux conservateurs, tous durent relever la gajure contre-révolutionnaire, en produisant une théorie politique et sociale qui devait être concrète, non pas abstraite. Et c'est pour cela qu'il leur fallait écrire une histoire. C'est pour cela que le XIXe siècle est le siècle de l'histoire, parce que la théorie politique et la théorie sociale ne pouvaient s'assurer d'être concrètes qu'en étant elles-mêmes des théories historiques. Il leur fallait écrire une histoire, histoire de France ou de la civilisation européenne, capable d'inscrire enfin la rupture révolutionnaire elle-même dans la chaîne renouée des temps. Et c'est cela qui singularise l'écriture française de l'histoire au XIXe siècle et qui fournit la clé des œuvres des théoriciens de l'histoire de cette époque-là. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Frédéric pour ce parcours qui part du problème de l'histoire comme science et qui, comment dire, n'évacue pas finalement la question du sens, qui n'évacue pas la question du sens, mais une question du sens qui ne peut pas répondre de la réalisation d'un projet, d'une idée, et qui est à finalement reprendre du point de vue du travail de ces historiens qui sont apparus pour finalement réhabiliter le temps. Quoi.
Je voulais garder ça pour la discussion, mais je peux le dire juste maintenant en un mot. Ce qui fait qu'on ne peut pas se contenter de la dénonciation du présentisme, c'est qu'il y a bel et bien une promesse, et je crois qu'elle est encore vivante, et ça se voit même dans des mouvements sociaux. Simplement, cette promesse, c'est une promesse de droit. Et voilà, tu vois, donc, et c'est ça qui en fait, aujourd'hui, me semble-t-il, anime ou rend active ou dynamise le principe espérance. Et pourquoi est-ce que c'est pas un point de vue abstrait? Bah, précisément parce qu'il y a la tradition révolutionnaire. C'est-à-dire que la révolution est elle-même devenue une tradition du droit et des conquêtes du droit. Voilà.
Alors, nous allons maintenant passer à Jean-Yves Prancher qui est un des auteurs d'un des articles du dossier, le progrès comme catastrophe, mais je vais vous présenter, ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, membre donc du Centre de théorie politique de l'Université libre de Bruxelles où vous enseignez. Je crois que vous êtes diplomate, je peux tout à fait le dire, luxembourgeoise, voilà. Les enseignements, c'est autour de la théorie de la démocratie et aussi, enfin, une chose qu'on ne devrait pas perdre de vue aujourd'hui, l'idée de nation et l'idée de l'Europe. Voilà. Du point de vue des ouvrages, là aussi, je vais dire l'autorité contre les Lumières, la philosophie de Joseph de Maistre, Louis de Bonald, réflexion sur l'accord des dogmes de la religion avec la raison, donc au CERF, et puis Le procès des droits de l'homme, Frédéric vient de parler des droits de l'homme avec Justine Lacroix, avec, je dirais, une approche, à mon sens, excuse-moi, je suis conscient, un peu antinomique, mais j'aime bien les antinomies, entre d'un côté perplexité devant le succès, c'est ce que vous dites, d'une critique régulièrement adressée aux droits de l'homme, donc ça contribuerait à déliter les sociétés, et de l'autre, en même temps, une perplexité, en même temps critique, par rapport à finalement ce qui risquerait de dévider de leur sens les droits de l'homme aussi, en dissociant l'homme du citoyen. Et là, il y a quelque chose, je trouve, un point d'équilibre entre les deux, et on va vous écouter donc par rapport au...
D'accord, merci beaucoup, mais merci de l'invitation, merci à Frédéric de m'avoir fait participer à ce numéro. Je retiens des questions sur les droits de l'homme, on en reparlera peut-être, mais bon, ce n'est pas le sujet immédiat. Bon, là, j'ai une tâche très difficile maintenant, puisque je dois réussir à ne pas répéter ce qu'a dit Frédéric, alors qu'il vient brillamment de présenter à la fois la visée générale du numéro et la place qu'y occupent les contre-révolutionnaires, qui sont le thème de l'article que j'ai consacré au numéro. Donc je vais tenter. Ah, non, tu as quand même Tu as quand même bien insisté. Donc je vais tenter en fait de ne pas trop redoubler, le propos de Frédéric, mais de m'appuyer sur lui, en disant. D'abord, je vais repartir de tes réflexions qui me semblent tout à fait pertinentes pour justement situer la position des contre-révolutionnaires, si on peut dire, par un anachronisme contrôlé par rapport au problème que tu viens de poser du présentisme et de la fin de l'histoire. Et puis, je voudrais donc dire quelques mots pourquoi cette conception ou cette description du choc révolutionnaire par les contre-révolutionnaires est importante pour la mise en place de la philosophie de l'histoire et en quoi elle a pu définir les coordonnées de la philosophie de l'histoire au XIXe siècle. Et j'essaierai de dire quelques mots enfin sur l'héritage de cette critique et sur la façon dont elle reste présente au titre de ce qu'on appelle l'antimodernité, terme assez captieux et difficile à définir. Bon, alors, je vais repartir tout d'abord de ce que disait Frédéric en faisant une remarque qui ne fait que compléter ce qu'il disait, à savoir qu'une certaine manière, si on repense à la matrice kojèvienne du thème de la fin de l'histoire, puisque c'est Kojève qui a véritablement fixé l'idée, le terme de fin de l'histoire, n'apparaissant ni chez Hegel, ni chez Marx, qui parle d'une fin de la préhistoire humaine, et l'idée de fin de l'histoire étant vraiment la façon dont Kojève a retranscrit, dans un langage semi-heideggerien en plus, une sorte d'hegeliano-marxisme de son cru, donc Kojève a forgé une espèce de synthèse assez inattendue. Un point qui est très frappant, c'est que dans la première version kojèvienne de la fin de l'histoire, l'homme de la fin de l'histoire, c'est quasiment le dernier homme nietzschéen. C'est le nihiliste accompli qui adopte l'American Way of Life et qui s'effondre, dit Kojève, dans un mode de vie animal qui est un mode de vie purement consumériste. Et c'est seulement dans un second temps que Kojève, étant allé au Japon, se met à dire « Ah non, en fait, l'homme de la fin de l'histoire, ça peut être l'homme qui esthétise la futilité de son existence dépourvue de sens et qui, de cette façon, échappe à l'animalité et maintient la civilisation. » Alors, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, si on se souvient de la position de Kojève, Fukuyama et Hartog disent exactement la même chose. C'est ce que je voulais montrer d'ailleurs, c'est ce que tu sous-entendais dans ton propos. Il dit exactement la même chose, et il est très difficile de décider si on a affaire à la fin du dieu histoire, à la mort du dieu histoire, ou si on a affaire au fait que l'histoire étant réalisée, le dieu histoire s'est retiré, son travail étant accompli, comme si nous vivions dans un dimanche de la vie éternelle sans messe. Voilà, et sans attente d'une résurrection. Dieu s'étant accompli dans l'histoire, s'est absenté. C'est un peu ça la version de la fin de l'histoire kojèvienne. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelque chose de ça aussi chez Marcel Gauchet, finalement. Parce que tu disais, il n'y a plus de philosophie de l'histoire, mais je pense qu'on a quand même au moins un grand exemple d'une philosophie de l'histoire constituée, immense, dans l'œuvre de Marcel Gauchet, et qui bute d'une certaine manière sur ces mêmes difficultés. D'un côté, il affirme que l'historicité est ouverte. D'un autre côté, il décrit une telle dynamique nécessaire de l'histoire qu'on a tout de même l'impression d'avoir affaire à une actualisation de la pensée hegelienne. Bref, enfin, comme si nous étions constamment voués à hésiter entre être des hegeliens de droite ou des hegeliens de gauche, à savoir si l'histoire est achevée ou s'il reste à l'achever. J'y pensais quand tu disais le 11 septembre signe le fait que la fin de l'histoire n'est pas là, mais je pense que Marcel Gauchet ne serait pas d'accord, puisqu'il explique justement le 11 septembre comme une réaction de crispation de sociétés qui sont frappées par la sécularisation et qui surréagissent à une sécularisation à laquelle ils n'échapperont pas, de sorte que cette surréaction n'est que la manifestation d'un paroxysme d'impuissance, mais qui n'a aucun avenir, aucun lendemain. Comme disait Sloterdijk, les attentats terroristes sont des razzias menés depuis le monde du rêve. Donc on pourrait très bien soutenir ça, c'est une thèse tout à fait soutenable, et auquel cas, ce que disait Kojève reste vrai. On assiste à l'alignement des provinces, mais Kojève n'a jamais dit que ce qu'il appelait l'alignement des provinces, c'est-à-dire le fait que la fin de l'histoire est un processus qui prend du temps à se réaliser, Kojève ne pensait pas que l'alignement des provinces était forcément un phénomène pacifique. Du point de vue de Kojève, Staline, c'était l'alignement de la Russie sur l'industrialisme américain, au prix de beaucoup de sang. Bon, mais c'était un alignement. Bon. Comme il disait, les Russes ne sont que des Américains en voie d'enrichissement. Alors, je dirais, par rapport à ça, qu'est-ce qui fait sens dans la position des contre-révolutionnaires ? C'est justement le refus de cette vision d'une philosophie de l'histoire où finalement la réalisation du sens et épuisement du sens et disparition du sens. Et donc, le correctif qui serait apporté à une vision hegélienne, mais j'ai envie de dire, les contre-révolutionnaires connaissaient parfaitement la vision hegélienne puisqu'ils avaient lu Condorcet. Donc, fondamentalement, la philosophie de l'histoire telle qu'elle s'élabore de Condorcet à Kant et à Hegel leur est quelque chose de connu. Ils réagissent à une philosophie de l'histoire dont ils connaissent parfaitement les linéaments, une philosophie de l'histoire que Kant et Hegel vont auquel ils donnent une forme de plus en plus dialectisée et d'une dialectique de plus en plus subtile et de plus en plus tendue et qui peut faire de plus en plus de place à la rationalité de la violence. Mais enfin, de Condorcet à Hegel, ce qui advient, et même à Kant, c'est une dialectisation d'une matrice dont on peut considérer qu'en un certain sens, elle reste inchangée. C'est-à-dire que l'histoire est l'extension de la liberté à tous et de la rationalité à tous. Alors, je dirais que, mais ça, tu l'as déjà dit, par rapport à ça, la position contre-révolutionnaire consiste à dire que la catastrophe révolutionnaire ne se laisse dialectiser complètement en aucun sens. Ils vont quand même en avoir une conception dialectique, hein, mais elle ne peut pas se laisser dialectiser dans un récit qui donnerait un sens immanent à l'histoire humaine. C'est ça le sens de la formule de Maistre sur le fait que la Révolution est satanique. L'idée est qu'il y a dans la Révolution française une catastrophe symbolique. Ce pourquoi d'ailleurs le plus horrible de la Révolution française n'est pas la violence physique. Après tout, Maistre le sait, le dit, de la violence physique, il y en a déjà eu. Les dévastations du Palatinat avec Louvois, en termes d'épouvante, ça va être la Révolution. Mais la catastrophe est que cette dévastation et cette violence se fondent en raison, se légitiment en raison. C'est pourquoi le symbole même de l'horreur révolutionnaire, c'est le régicide, parce que le régicide est un crime diabolique, prémédité, dans lequel les règles du droit sont intégralement renversées de sang-froid par des individus qui pensent leur crime et qui ne sont pas simplement en proie à un déchaînement passionnel. Et donc, la thèse des contre-révolutionnaires français, et ça fait une grande différence avec Burke, c'est justement cela. Il y a dans la Révolution une catastrophe symbolique, et le contraire du symbolique, c'est le diabolique. Donc, la Révolution française est satanique. C'est une catastrophe symbolique d'une ampleur inédite, et en tant que catastrophe symbolique, elle n'est pas explicable par ses propres causes. Toutes ces... Toutes ces causes existent, toutes ces causes sociologiques ont joué un rôle, mais... elles ne sont pas déterminantes. La Révolution française, c'est un événement métaphysique qui a, de ce point de vue-là, le statut d'une véritable fracture de l'histoire. Ici, je me permets une petite pause et je fais une petite digression, puisque Frédéric a justement insisté sur le fait qu'il s'agissait de philosophie à la française, alors on va dire à la française ou à la francophone, parce que Maistre n'était pas français, il était sujet du roi de Piémont-Sardaigne. Donc il n'était pas... oui, mais il a refusé de l'être. Il a toujours dit « je ne suis pas français ». Bon, et Napoléon, effectivement, l'a autorisé exceptionnellement à servir le roi de Sardaigne, parce que Napoléon, ayant lu les considérations sur la France, a fait une exception pour Maistre sur le décret des émigrés, ce qui a d'ailleurs a valu beaucoup d'ennuis à Maistre avec sa cour se demandant pourquoi Napoléon faisait une fleur à ce type. Voilà, bon, mais enfin, ça c'est anecdotique. Je pense que c'est ici, on voit un point intéressant qui est la différence avec Burke. Parce qu'on a deux grandes matrices de la pensée contre-révolutionnaire. En fait, il y en a trois. Il y a le romantisme, ce qu'on appelle le romantisme politique, mais le romantisme n'est pas structurellement contre-révolutionnaire. Il y a simplement une version et un moment contre-révolutionnaire du romantisme. Je pense qu'il n'est pas pertinent de penser le romantisme à la lumière de la contre-révolution. Donc je laisserai de côté les romantiques contre-révolutionnaires comme Novalis, qui est le prototype. Donc il y a deux grandes matrices. C'est la matrice de la critique burkéenne et la matrice de ce qu'on peut appeler la contre-révolution catholique, même si leur catholicisme est traversé d'hérésies dont ils n'ont pas forcément conscience, la contribution catholique telle que la pense Maistre et Bonald. Alors, Ce qui est très frappant, c'est la chose suivante. C'est Burke est simplement un défenseur de la Constitution anglaise. Et à aucun moment, il n'accepte de lire la Révolution comme un événement métaphysique. C'est d'autant plus frappant que Burke a tous les éléments pour le faire. En tant qu'auteur de célèbres réflexions sur le sentiment du beau et du sublime, il a tous les éléments pour faire une interprétation de la Révolution française à la lumière du sublime. La Révolution est typiquement un de ces événements terribles, sublimes, dont Burke a fait l'analyse au titre esthétique, mais il refuse absolument d'appliquer ces catégories à la Révolution française. Il écrit un texte sublime contre la Révolution française, mais son effort est d'aplatir sociologiquement la Révolution. Et justement, de ne pas faire à travers la Révolution un procès indéterminé des Lumières. Burke est un ennemi de ce qu'on appelle au XVIIIe siècle la philosophie, au sens que le mot a à cette époque. La philosophie, c'est-à-dire, comme le dit Vaigré-Parole, non pas une philosophie mais un parti, c'est-à-dire la secte des encyclopédistes. Ce qui s'appelle philosophie, c'est ce groupe d'individus athées qui se sont organisés en partie avec l'encyclopédie et qui mènent une propagande intellectuelle contre le christianisme et contre la monarchie dans la France d'Ancien Régime. Bon. Burke est absolument hostile à cette secte. En revanche, Burke considère que Montesquieu est le plus grand penseur des temps modernes et qu'il est avec Cicéron le seul penseur politique qui vaille. Il est attaché à la tradition anglaise de la common law et il est profondément attaché aux lumières écossaises en matière économique. Il est en accord parfait, comme il le dit et comme Adam Smith le dit, avec Adam Smith. Donc son modèle civilisationnel, c'est un progrès des lumières, en un certain sens, mais de lumières non philosophiques. Et un progrès des Lumières dans lequel progresse ensemble une civilisation des mœurs qui a des origines aristocratiques. L'apport de la féodalité de l'aristocratie, c'est la civilisation des mœurs, ce sont les fictions de la politesse, des coutumes, etc. Donc une civilisation des mœurs d'origine aristocratique qui s'est fondue avec la liberté du commerce contrôlée par l'alliance typiquement anglaise de la bourgeoisie commerçante et de la noblesse terrienne, se régulant l'une l'autre et empêchant la naissance d'une classe de spéculateurs capitalistes. Le capitalisme reste un capitalisme de propriétaires terriens et d'entrepreneurs. Donc fusion de cette civilisation aristocratique des mœurs, du libéralisme économique tel que pensé par les Écossais et de la tradition jurisprudentielle de la common law, la tradition jurisprudentielle qui n'émane pas du pouvoir souverain. Et c'est pourquoi, dans la Révolution française, Burke est connu comme un Whig et comme étant essentiellement un défenseur des droits du Parlement, des droits des Irlandais, demandant que la situation des catholiques soit améliorée, qu'une certaine tolérance soit concédée aux catholiques irlandais, luttant pour les droits des populations indiennes contre le gouverneur Hastings et soutenant les insurgés américains dont il regrette la démarche indépendantiste, mais dont il considère que cette démarche est légitime puisque les Anglais sont seuls responsables de la situation. Ce sont les Anglais qui ont forcé les Américains à l'indépendance et donc cette situation est regrettable, mais les Anglais n'ont à s'en prendre qu'à eux-mêmes, c'est pourquoi Burke soutient les indépendantistes américains. Alors, dans cette vision, la Révolution française n'est pas un événement métaphysique parce qu'elle est le signe d'une pathologie spécifiquement française. Et Burke produit une analyse d'ailleurs absolument époustouflante dans laquelle il explique voilà, que s'est-il passé en France. On a eu une monarchie qui, après avoir stipendié les intellectuels, les a abandonnés, créant ainsi une intelligentsia insatisfaite, vivant aux marges du pouvoir, n'exerçant aucune responsabilité politique et se trouvant déconnectée des puissances terriennes et des puissances de la société civile, puisqu'il n'y a pas de patronage des intellectuels comme c'est le cas en Angleterre. Donc la monarchie a laissé se constituer une intelligentsia, bon, je parle de façon anachronique, mais c'est bien l'idée, prolétaroïde. C'est pourquoi Pocock disait, Burke a compris comment la révolution russe allait arriver. Et d'autre part, en empêchant la fusion de la bourgeoisie commerçante et de la noblesse terrienne, en laissant la noblesse et la bourgeoisie séparées, la France n'a pas permis que se constitue justement un pôle de puissance raisonnable. Et que s'est-il passé? Eh bien, s'est constituée en France une classe de spéculateurs financiers déconnectés de la propriété terrienne et industrielle. Or, cette classe de spéculateurs financiers, dit Burke, a spéculé sur la dette française, qui était considérable, qui amène la convocation des États généraux, et ces spéculateurs avaient besoin que des biens de l'Église soient spoliés pour pouvoir rembourser leurs dettes. Donc la radicalisation de la révolution pour Burke a une raison très simple. On a d'un côté des spéculateurs capitalistes qui veulent que la dette soit remboursée puisqu'ils ont spéculé sur cette dette et qui n'ont pas d'autre issue pour le remboursement de la dette que la nationalisation des biens de l'Église, et d'autre part une intelligentsia déconnectée des puissances sociales, potentiellement athées, et qui font alliance et qui entraînent la France dans un procès révolutionnaire d'une radicalité absolument terrifiante et qui horrifie Burke dès le début. Alors, dans cette analyse, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on a à la fois une position qui est fondamentalement libérale et modérée. Burke est convaincu que toutes les religions sont bonnes. Il souhaite un régime de tolérance avec l'Église établie, donc il veut simplement il ne veut pas qu'on donne l'accès aux fonctions publiques aux catholiques anglais, mais qu'on leur donne une plus grande tolérance pour pratiquer leur religion. Il favorise la liberté du commerce, il défend les Lumières au sens de Montesquieu contre la philosophie au sens de Diderot, pour dire les choses assez simplement, et de ce point de vue-là, il occupe une position qui n'est pas du tout radicale. Il est sur un libéralisme conservateur tout à fait tempéré. C'est un défenseur du parlementarisme anglais. En revanche, son analyse de la révolution comme pathologie implique une position contre-révolutionnaire extrêmement virulente. Quand on a une tumeur cancéreuse, on l'extirpe. Il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est pourquoi il prêche une guerre totale contre la France avant que la France ne déclenche la guerre totale. Dès 1790, il dit que la déclaration de droits de l'homme est une déclaration de guerre totale. Elle place tout pays devant l'obligation ou bien de s'aligner sur la France ou bien d'être en guerre avec elle. La déclaration des droits de l'homme stipule que les constitutions qui ne sont pas fondées sur les droits de l'homme ne sont pas des constitutions. C'est une déclaration de guerre. L'Angleterre n'a pas le droit d'exister au jeu de la déclaration des droits de l'homme. La France va déclencher une guerre totale. Pour prévenir cela, c'est nous qui devons déclencher une guerre totale contre la France. Et donc, dès 1791, il plaide pour que l'Angleterre mène une guerre totale contre la France, sans considérer le droit des gens et en n'hésitant pas à pratiquer toutes les exterminations nécessaires. Comme il le dit, il faut entrer en France comme dans un pays d'assassins. On a cette articulation entre une philosophie libérale non radicale et la proposition d'une guerre radicale contre la Révolution. La position de Mestre et Bonald est exactement inverse. C'est-à-dire, leur position théorique est beaucoup plus radicale que celle de Bonald, que celle de Burke. Ils dénoncent dans la Révolution un événement satanique. Une catastrophe absolument épouvantable qui fracture le tissu de l'histoire. Mais du même coup, il n'est pas possible de traiter la Révolution française et les révolutionnaires comme une tumeur cancéreuse qu'il s'agirait d'extirper et d'annihiler. Parce que ce que la Révolution révèle, c'est la crise qui travaille l'Europe moderne depuis le Moyen Âge. Elle manifeste d'une certaine manière l'essence même, ou une essence, des temps modernes. Et il n'est pas question d'opposer à ce phénomène catastrophique une violence inverse. La grande phrase de Maistre dans les considérations sur la France, c'est « la contre-révolution ne sera pas le contraire de la révolution ». Or, c'est ça un peu que propose Burke. Elle ne sera pas une révolution contraire, elle sera le contraire de la révolution. Ce qui exclut que, justement, on procède, par exemple, par les voies de la terreur blanche. D'où cette attente que le terrorisme révolutionnaire doit s'auto-annihiler. C'est pourquoi Dieu le laisse faire comme puissance qui s'auto-annihile, et il n'est pas question d'intervenir de manière terroriste contre ce terrorisme révolutionnaire. Il en est d'autant moins question que, dit Maistre, ce terrorisme révolutionnaire a des aspects positifs. Comme il le dit, Robespierre sauve la France. Si les Alliés avaient gagné, la France était démembrée et démantelée. Et dit Maistre, c'est le génie infernal de Robespierre qui a sauvé la France et qui a préservé la France pour la restauration de la monarchie. D'où des positions empiriques, pragmatiques, qui du coup d'ailleurs sont beaucoup moins violentes que celles de Burke, alors même que la position de principe n'est pas libérale, puisqu'il s'agit de restaurer l'unité de foi que les temps modernes ont défaite. Et le point est très clair, il s'agit de mettre fin au schisme moderne inaugurée par la Réforme et par le protestantisme. Ce qui est en jeu dans la Révolution française, dit Maistre, c'est le combat du christianisme et du philosophisme, et la seule issue possible, c'est le rétablissement du christianisme sous sa forme catholique la plus pleine et la plus complète. D'où cette double thèse, enfin tout à fait remarquable, qui est que la Révolution est satanique et en même temps elle est une œuvre providentielle. Elle est satanique parce qu'elle est le déchaînement d'une violence dirigée contre le fondement divin de l'autorité. Elle est le comble de cette insurrection contre Dieu qu'étaient selon Maistre les Lumières. Et en même temps, elle est une œuvre de providence puisque Dieu laisse la violence se déchaîner pour qu'en quelque sorte, elle s'auto-élimine, elle s'auto-détruise et fasse place à un rétablissement du catholicisme et de la monarchie, mais qui sera plus qu'un rétablissement, qui sera, selon le mot qu'utilise Maistre Bonnade, et qui sera le sésame de toute la pensée du XIXe, également chez les Saint-Simoniens, chez les socialistes, il s'agit de produire une régénération. L'issue de la Révolution doit être une régénération du christianisme, un renouvellement du christianisme. J'en redirai quelques mots en conclusion. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on oppose à la philosophie de l'histoire de Condorcet ? Ben, on lui oppose justement qu'elle n'a été qu'une dramatisation du concept, alors que l'histoire est faite par des forces métaphysiques réelles, par des forces divines et par des forces diaboliques, qui sont, pour finir, les ressorts des philosophies. Et ce qu'on oppose ainsi à la finalité d'une philosophie de l'histoire, c'est l'idée d'une théologie de l'histoire, mais d'une théologie de l'histoire qui est philosophiquement fondée. Et ici, je pense qu'on peut dire la chose suivante, dans la vision contre-révolutionnaire, ce qui est en jeu finalement dans le cours de l'histoire, ça n'est pas la réalisation d'un sens de l'histoire, c'est la décision sur le sens de l'histoire. Ce sens de l'histoire, il ne nous est pas connu. C'est pourquoi il serait grotesque de répondre à la question du sens de l'histoire, puisque la question du sens de l'histoire est justement l'enjeu fondamental du processus historique. Et c'est forcément l'enjeu fondamental du processus historique dans une période qui se situe entre le départ du Christ et son retour qui n'est pas encore advenu. Que va-t-il en être du sens de l'histoire ? Que doit-il être ? C'est très exactement l'enjeu du processus historique comme tel. Et le sens de l'histoire est là. Ce n'est pas quelque chose que l'on pourrait formuler ou donner. Hein. C'est ce qu'on doit considérer comme l'objet de la révélation que doit nous donner le processus historique comme tel en tant qu'il n'est pas encore achevé. Alors, de façon très intéressante, chez Maistre, ça bascule dans certains autres manuscrits et également dans le dernier entretien sur la Saint Pétersbourg, ça bascule très clairement dans l'hérésie joachimite. Maistre attend une troisième révélation. Maistre pense qu'il y aura une révélation de l'Esprit Saint et que la Révolution française est l'indice que quelque chose comme une révélation de l'Esprit Saint a commencé à se mettre en marche. Comme il le dit, l'enjeu de la Révolution française est la fusion des nations. La Révolution française est le déclenchement d'une mondialisation qui signifie qu'on ne va pas pouvoir en rester aux partitions religieuses reçues. Nous allons vers ça sans comprendre comment, et d'où cette position tout à fait paradoxale du contre-révolutionnaire qui est la position du fils aîné en fait. Hein. Il se trouve que Maistre en plus était le fils aîné dans sa famille, occupait la position du fils aîné, c'est-à-dire celui qui garde la maison en sachant que c'est peut-être le fils prodigue qui va avoir la faveur de Dieu, mais qui sait qu'il faut garder la maison, que la révolution doit être condamnée, quitte à ce que le processus révolutionnaire ait pour vocation d'engendrer une forme religieuse supérieure et bien meilleure que celle que le contre-révolutionnaire doit garder en tant que fils aîné qui a la garde de la maison. Hein, c'est un point qui travaille énormément la pensée de Maistre et sans lequel on ne peut pas comprendre l'influence qu'a eu Maistre sur des auteurs comme Ballanche ou Lamennais qui ont repris le récit maistrien pour le renverser dans le sens de la démocratie chrétienne ou carrément d'une démocratie sociale chrétienne. Le meilleur exemple pour ça, c'est Ballanche, hein, Ballanche qui reprend le récit maistrien mais qui y apporte simplement cette modification qui est que Louis XVI en tant que roi martyr est le roi qui a expié les crimes de la monarchie, qui a expié en même temps les crimes de la Révolution. Donc qui a fait œuvre salvatrice de la France en payant pour ses ancêtres et en demandant à Dieu que le sang ne retombe pas sur la France, en faisant de sa mise à mort l'expiation de la Révolution elle-même et signalant, dit Ballanche, que l'époque de la peine de mort est finie, qu'après la mort de Louis XVI, la peine de mort ne doit plus être autorisée et que nous entrons donc dans le nouvel âge qui sera celui de l'émancipation du prolétariat par lui-même, rendu possible par le sacrifice christique du roi Louis XVI. Alors, récit maistrien qui débouche sur des positions quasiment socialistes de fait, hein, l'idée d'une émancipation prolétaire sous l'égide de l'expiation des asservissements du passé, donc sous l'égide de la démocratie chrétienne, et d'une démocratie qui reste profondément chrétienne, puisque le cœur de l'histoire reste donné par le sacrifice christique dont le sens se développe. Alors, pour pas être l'autre long, je dirais juste ceci maintenant relativement à la question de la philosophie de l'histoire et pourquoi les contre-révolutionnaires importent. C'est que par rapport au concept d'histoire reçue des Lumières, ils opèrent une triple opération, en fait. Pardon pour la répétition, opération. Ils proposent d'historiciser l'histoire, si j'ose dire, de la sociologiser et de la dialectiser. Alors, le point tout à fait remarquable, c'est que, comme l'a dit Frédéric, cette philosophie de l'histoire à la française, l'historicise radicalement l'esprit. Or, les contre-révolutionnaires n'entendent pas du tout, de toute façon, historiciser radicalement l'esprit. Ils entendent réaffirmer les droits de la transcendance et de l'éternité divine contre le déditement de l'humanité dans une temporalité qui aurait perdu son centre. Cependant, c'est bien à une historicisation qu'il procède en objectant justement à la philosophie de l'histoire des Lumières quel est le déroulement d'un programme conceptuel qui fait fi de l'histoire réelle. D'où l'insistance des contre-révolutionnaires sur, Frédéric l'a déjà dit, l'irréductibilité de l'histoire au concept, l'inscription des individus dans un horizon qui est toujours historique et qui en tant que tel est toujours défini par des préjugés et des présuppositions non élucidables, et la définition de l'histoire comme un processus qui ne peut faire l'objet d'aucune maîtrise volontariste, d'aucune planification et d'aucune reprise en main, si on peut dire, par l'autonomie humaine. Et qui manifeste de cette façon-là la transcendance divine. C'est en tant que l'histoire ne se laisse pas surplomber qu'elle manifeste une transcendance divine qui peut surprendre y compris les défenseurs de la transcendance divine qui acceptent cette surprise. Enfin, quand on tient le rôle du fils aîné, on accepte, on le sait, la possibilité du fils prodigue, mais ça n'empêche pas qu'il faut un fils aîné. Ça, c'est, je dirais, la première dimension. Alors, c'est bien sûr une historicisation avortée. Hein. Gérard Gingembre disait la contre-révolution est historiciste parce qu'elle refuse l'histoire, puisqu'il s'agit justement d'historiciser la société pour s'opposer au processus historique réel en cours, qui est celui de la révolution, qui est perçu par les contre-révolutionnaires comme un pur processus de dissociation et de délitement. Deuxième opération, sociologisation, puisque les contre-révolutionnaires vont opposer aux révolutionnaires l'impossibilité de construire la société à partir du simple schéma de l'association contractuelle des individus. Les individus sont le produit de la société et de la socialisation. Ils ne sont pas le produit d'un contrat, et le contrat est incapable de rendre compte historiquement de l'existence des sociétés, mais il est également incapable de rendre compte normativement de l'existence des sociétés. Comme le font remarquer les contre-révolutionnaires, l'obligation d'obéir à un contrat n'est pas contractuelle. On ne peut pas fonder sur le contrat social l'obligation d'obéir au contrat. De ce point de vue-là, les droits de l'homme sont divins ou ils ne sont pas, à supposer qu'on veuille les maintenir. Leur fondement ne peut pas être contractuel. Et puis pire que ça, le contrat social ne peut pas constituer un principe d'intégration au corps social. Il est impossible de fonder les droits de l'enfant sur le corps social. Il est impossible de fonder le droit des personnes extérieures au corps social sur le contrat social. Le contrat social ne donne aucun droit à ceux qui ne sont pas partie prenante du contrat social. Et donc, de ce point de vue-là, le modèle de l'individu contractant est un modèle profondément déficient, et qui ne peut pas rendre compte du phénomène social fondamental. Alors, d'où chez les contre-révolutionnaires une opposition virulente au libéralisme et à la démocratie, opposition d'ailleurs dont il n'est pas clair qu'elle soit absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'eux, ils en tirent une opposition virulente à la démocratie et au libéralisme ensemble. Balanche et Mlanet vont justement montrer que sur les mêmes bases, on peut éventuellement produire une justification d'une démocratie sociale ou d'une démocratie chrétienne. Vont avancer l'idée que le christianisme peut justement fournir le principe qui va rendre possible une existence démocratique qui ne sera pas fondée sur le contrat individuel. Bon. Alors, dernier point, je disais dialectisation. Alors, il faut s'entendre sur ce thème. Il y a un double geste chez les contre-révolutionnaires. D'une part, il y a l'idée qu'on ne peut pas intégrer le mal dans une histoire du bien. Donc, il y a un moment maléfique dans l'histoire humaine qui ne peut pas être reconverti dans le bien. Donc il y a une opposition réelle du diable à Dieu, et on ne peut pas faire du diable un avatar ou un moment ou une manifestation de Dieu. Mais je dirais cette thèse qu'on peut dire antidialectique, puisqu'elle renvoie sur le plan métaphysique à une opposition ami-ennemi qui est absolument irréductible, à une opposition Dieu-diable qui est absolument irréductible, c'est justement un principe de dialectisation de la lecture de l'histoire moderne. Puisque d'une part les Lumières vont apparaître comme un processus profondément dialectique, les Lumières se renversent en leur contraire. Et pour cette raison, on peut trouver chez certains penseurs des Lumières des ressources pour penser contre les Lumières et les critiquer elles-mêmes. Et ici, on doit souligner que Mestre et Bonald sont fondamentalement des cartésiens malbranchistes du point de vue métaphysique, et que du point de vue politique, toute leur opération consiste à utiliser la critique des Lumières par Rousseau pour la retourner contre Rousseau. Il y a un schème profondément rousseauiste qui agit chez eux, comme le dit Bonald, la loi est l'expression de la volonté générale. Cette proposition est absolument vraie, la loi doit être ça, l'expression d'une volonté générale, mais qui n'est pas justement la volonté des individus, qui peut être que la volonté du corps social, telle que la dégage une institution hiérarchique. Et donc voilà, les Lumières se renversent en leur contraire, mais dans ce renversement en leur contraire, tel que Dieu l'utilise, il y a la possibilité, pour ainsi dire, d'un renversement du contraire en son contraire, l'autodestruction nihiliste des Lumières ouvrant la voie à une régénération de la religion chrétienne. Alors, j'ai déjà atteint mon temps de parole, je crois, donc je ne vais pas insister plus que ça. Bon, j'aurais pu décrire cette dialectique plus directement en montrant comment chez Bonald il y avait une théorie finalement de l'inégalité morale et politique comme correcteur ou correctif de l'inégalité sociale. Je dirais pour terminer la chose suivante. Donc en fait il y a plusieurs héritages possibles à partir de là de la contre-révolution. Le premier héritage, je dirais, c'est l'héritage sociologique. C'est celui d'ailleurs qui est étudié par beaucoup d'articles du numéro. C'est-à-dire la façon dont la sociologie, en particulier la sociologie socialiste, a pris acte des objections contre-révolutionnaires et a tenté de bâtir une sociologie de la société des individus qui constituait comme telle une réponse à la critique maistrienne et bonaldienne de l'individualisme. Il s'agissait de montrer quel est le type de socialisation qui rend possible une société des individus. Bon. Je dirais que ça a été sans doute un premier héritage sur le mode de la réponse aux défis posés. Il y a un deuxième héritage paradoxal finalement chez les penseurs d'une théologie de l'histoire. C'est-à-dire chez ceux qui gardent des contre-révolutionnaires, l'idée qui n'était pas centrale chez eux, mais qui était présente, et qui était l'idée qu'il y avait au cœur de l'histoire une sorte de secret eschatologique ou de réserve eschatologique, par laquelle l'histoire n'avait pas dit son mot, de sorte que finalement, la bonne position chrétienne consistait à articuler ensemble une sorte de conservatisme de première phase, si j'ose dire, et d'attente révolutionnaire eschatologique de seconde phase. Je pense qu'on pourrait trouver quelque chose comme ça chez quelqu'un qui est un héritier de Maistre et qui répète lui aussi l'hérésie joachimite à bien des égards, comme Léon Blois. Je pense qu'on pourrait trouver cet héritage-là chez Walter Benjamin, de façon assez frappante, assez inattendue et assez paradoxale, mais justement cette attente de la manifestation d'un sens messianique dans l'histoire, mais d'un sens messianique qui n'était pas anticipable. Puisque on sait que Dieu nous réserve une surprise, et il faut justement se tenir dans l'histoire, dans l'attente de cette surprise. Et je dirais, à partir de là, on comprend cette troisième dimension qui caractérise les contre-révolutionnaires, et qui a fait que finalement on n'a jamais cessé de les lire, même si on les a pas lus chez eux-mêmes, mais bon, quand on lit Balzac, on lit Bonald. Quand on lit Baudelaire, on lit Maistre. Et de ce point de vue-là, on n'a jamais cessé de les lire. Et qui est la position qu'on peut dire de l'antimodernité. Mais qui est une position tout à fait paradoxale puisqu'elle est double, parce qu'elle se manifeste à la fois par un refus de la modernité comprise comme la dynamique nihiliste des temps modernes. Il ne serait pas difficile d'ailleurs ici de rattacher certains thèmes contre-révolutionnaires à leur postérité heideggerienne, ça ne serait pas du tout impossible. Donc l'antimodernité, tout d'abord en ce sens-là, mais également au sens d'une antimodernité absolument interne à ce que Foucault a appelé une attitude de modernité, puisqu'il y a deux sens au moins, je pense qu'il y en a même trois, mais on va s'en tenir à ces deux sens-là. La modernité, ça peut désigner d'une part une essence des temps modernes qui déroule son programme, mais la modernité, ça désigne aussi un certain type de rapport spécifique au temps. Et ce rapport spécifique au temps, c'est un rapport qui est né dans le christianisme. Ce n'est pas un hasard si le mot moderne a été inventé par des chrétiens de l'Antiquité tardive, à qui le mot d'actualité ne suffisait plus pour nommer ce rapport au temps qui était celui qu'ouvrait l'attente du Christ, à savoir un rapport à un moment historique à la hauteur duquel il fallait se montrer, dans la tenue à la fois de l'injonction éternelle et de la capacité à savoir lire les signes du temps. C'est la modernité que définira Baudelaire en disciple de Joseph de Maistre comme la capacité de tirer l'éternel du transitoire, c'est-à-dire de se situer dans le temps, dans un rapport transversal au temps qui le tient en rapport avec l'éternité. Et c'est sans doute là la postérité la plus inattendue des contre-révolutionnaires.
Merci beaucoup, à la fois pour faire revenir Burke et son regard sur la Révolution française, et du coup, par contraste, mieux voir la position de Maistre. Puis alors, une chose moi qui m'a, je dirais que je retiens, c'est la dramatisation du concept, et je me suis demandé, en vous écoutant, si ça n'avait pas à voir avec cette... non pas la recherche d'un sens, regarder comment un sens s'organiserait à partir d'un projet, et finalement avec une décision de sens.
Oui, oui non, certainement, oui, absolument. Voilà. Absolument. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, et qui ne sont pas simplement des précurseurs de Schmitt, on ne peut pas dire ça. Rapages hérétiques dans lesquels Schmitt va s'engager, et puis également, surtout, des forces métaphysiques, le Dieu et le diable. Elle ne peut pas être utilisée à l'échelle des communautés humaines. C'est un point qui est très clair chez Maistre et chez Bonald. Dieu veut sauver tout le monde. Et même Maistre est convaincu que l'histoire n'est si violente que parce que Dieu est obligé d'avoir recours à la violence pour obtenir le résultat qui est celui du salut universel. Il y a aucune spéculation chez Maistre sur le fait que beaucoup de gens seront damnés. Il est là-dessus d'une discrétion absolument étonnante, au point que quand je le dis, je me demande même dans quelle mesure il pensait que l'enfer était, qu'il y avait des gens en enfer. Je n'en suis pas absolument sûr. Il pense que justement la démesure de l'histoire est liée à bien des égards à cet enjeu métaphysique terrible qui est qu'il faut sauver tout le monde. Or, quand on pense qu'il faut sauver tout le monde, il n'est pas question de mener une politique de l'hostilité. Voilà. Donc ça, c'est un point. Je dirais oui, c'est certainement lié à une décision du sens qui en fait est réservée chez les contre-révolutionnaires.
La parole, une deuxième question, c'est la violence finalement s'annihile elle-même. Mm-hmm. Ça vient d'où ça?
Oui, c'est vrai, oui, absolument, oui.
La sociale sociabilité ou une ruse de l'histoire chez Hegel. Alors, ça vient d'où, ça? Alors, vous avez donné des éléments par rapport à en métaphysique, théologie.
Alors, il faudrait aller voir de près chez Origène, en fait, puisque la culture théologique de Maistre est assez inattendue. Il n'est pas augustinien du tout. Il n'est pas thomiste non plus, mais il a beaucoup lu Origène et sa descendance. Sinon, je pense que le thème vient... Je pense qu'il faudrait vraiment aller voir de ce côté-là. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'à partir du moment où on laisse le mal agir, comme il est une puissance purement négative, il ne produit rien.
Ouais. Prendre quelques questions.
Un peu de teasing.
Je le trouvais très bon.
Et alors, c'est compliqué chez Kiné, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas parler de refoulé. On ne peut pas parler de retour du refoulé dans la pensée de Kiné. La pensée de Kiné consiste à dire que la sécularisation n'a pas eu lieu, que nous ne sommes pas sortis de la religion, que nous ne pouvons pas sortir de la religion parce que c'est absolument impensable une société sans religion. Simplement, il y a des métamorphoses, non pas les métamorphoses de la cité dont parle Manon, mais il y a des métamorphoses du dogme. Et le dogme, il se trouve qu'il se raffine de plus en plus, ça c'est le travail de l'histoire, ou qu'il se multiplie, il se pluralise, qu'il y a un certain nombre de révolutions dogmatiques, le monothéisme en est une, l'islam en est une, la réforme en est une, et que ce que nous appelons à tort la sécularisation, la laïcisation, l'athéisation, la sortie de la religion, n'est rien d'autre qu'une nouvelle forme du dogme que nous ne comprenons pas encore en tant que tel. Et cette forme du dogme, c'est que désormais, chacun d'entre nous est un temple intérieur, un dieu intérieur, et que le pouvoir spirituel est à l'intérieur de chacun d'entre nous. La thèse de Kiné, c'est que ça, c'est une forme de religion qui est encore supérieure au protestantisme, qui lui-même est supérieur au catholicisme, qui lui-même est supérieur au judaïsme, mais c'est la continuation. En fait, donc, c'est le sens de la thèse de Kiné, surtout dans le christianisme et la Révolution française. Je trouve que c'est une thèse absolument passionnante. C'est-à-dire que dans les débats sur les temps modernes, sont-ils légitimes? Est-ce que nous avons vraiment rompu avec la transcendance? Est-ce que nous sommes sortis de la transcendance? Est-ce qu'au fond, ou est-ce que il fallait le christianisme comme religion qui nous permit de sortir de la transcendance, etc.? Kiné a une position d'une simplicité, je trouve, absolument admirable et d'une radicalité incroyable, qui consiste à dire que considérer que la personne est un absolu, qui a une dignité absolue, n'a de sens que comme, en quelque sorte, non pas mondanisation de l'absolu, mais au contraire comme le fait qu'on reconnaît la divinité de chacun et on n'a pas besoin d'une confession pour savoir. Alors, c'est aussi la difficulté, c'est-à-dire que c'est clair ce que ma réponse. Oui. Donc, Ça veut dire que une démocratie républicaine ou une démocratie normée par le spirituel républicain est une démocratie non pas, je dirais, des droits subjectifs au sens trivial simplement d'aujourd'hui, mais une démocratie qui reconnaît, et c'est ça le fond du lien politique libre, qui reconnaît chaque personne comme ayant le statut d'une divinité intérieure. Et c'est ça qui norme la démocratie, c'est ça qui empêche la démocratie de délirer, et c'est ça qui fera, par exemple, qu'on sauvera Dreyfus parce qu'il est innocent. Et que la raison d'État, ou la volonté des foules, ou je ne sais quel mode qu'il pouvait y avoir à l'époque, etc., ne peuvent pas justifier qu'on ne défende pas absolument une personne. Donc, si vous voulez, c'est une vision théologique, non pas laïcisé, hein, mais je dirais déconfessionnalisé du politique. Quoi. Voilà.
C'est une sorte de, comment dire, de réinvestissement de la notion de personne aussi.
Oui, oui, absolument. Absolument.
Qui n'est pas...
C'est pas la version kantienne, c'est pas la loi morale, c'est-à-dire la pure forme abstraite de la rationalité qui fait ma dignité, parce qu'après tout, on comprend pas pourquoi, hein, le seul fait d'accéder à la pure forme de la rationalité en tant que telle me conférerait une dignité. Non, Kiné tient le bout, Kiné tient sa ligne jusqu'au bout, c'est que nous avons un Dieu en nous. Chacun d'entre nous, et c'est ça qui doit fonder un lien politique véritablement émancipé.
Du coup, on comprend assez bien, alors ça aurait horrifié Kiné, mais on comprend assez bien l'admiration de Peggy pour Kiné, et c'est oui. Pas, je vous l'ai dit, que quand on veut comprendre l'esprit républicain, il faut aller rechercher la tradition de Kiné, ce qui en est passé.
Mais moi je pense qu'il a complètement raison.
Et on comprend tout, à la limite, on voit que paradoxalement, alors que Kiné était anti-catholique et protestant, mais on voit très bien comment de Kiné on peut arriver à des phrases comme la décatholicisation est la même chose que la dérépublicanisation de la France, oui. Comme l'écrit Peggy. Ça demande un effort, il faut recatholiciser Kiné, ce qui ne va pas de soi, mais on peut très bien concevoir Peggy comme justement quelqu'un qui a parfaitement perçu ça et qui donnerait une version catholique de Kiné finalement.
Et alors ça donne aussi, alors les limites de la chose, c'est quand même que c'est pas, enfin faut l'établir, il suffit pas de dire que nous avons un Dieu intérieur, il faut aussi l'établir. La thèse fondamentale de Kiné, c'est que on ne peut pas comprendre l'humanité si on la pense en dehors d'une dogmatique quelconque. Sinon, on a des hordes, des meutes, des bandes de barbares, mais on n'a pas de société. Il n'y a de société que sous un dogme. Et notre société n'est pas hors dogme. Simplement, ce dogme n'est pas encore transparent lui-même. Ça, c'est une chose. Il n'a pas encore accédé à lui-même. Voilà. Oui, et alors, excusez-moi, juste pour terminer, du coup, Kiné en vient à dire des choses. Je disais, c'est ambigu, parce que d'abord, il faut établir cette thèse, et ensuite, il y a aussi une interprétation. Ça peut très bien se greffer avec une interprétation nationaliste, je dirais pas nauséabonde, mais qui pourrait, pas chez Kiné, évidemment, mais qui pourrait avoir éveiller de drôles de choses. Par exemple, Kiné pense que le nouveau dogme, et c'est tout à fait logique, c'est la Révolution française. La Révolution française, c'est la nouvelle religion. Alors, il n'est pas joachimite, hein, c'est pas Joachim de Fleur, c'est pas la nouvelle révélation de l'esprit, mais il estime que le droit, comme Michelet, là-dessus, il est comme Michelet, l'avènement du droit, non pas encore simplement des droits subjectifs au sens trivial, mais de l'absoluité du droit, le fait qu'une personne est une personne de droit, eh bien, ça, c'est notre nouveau dogme, et la Révolution française est en quelque sorte un nouveau testament qui raconte l'histoire de la naissance de et donc il dit il faut enseigner, il y a des formules extraordinaires dans la Révolution religieuse du 19e, il dit il faut, et comme Michelet, il faut enseigner la Révolution française comme notre nouvelle foi, c'est la nouvelle foi, c'est le nouveau dogme. Et alors évidemment, du coup, à partir de là, c'est là où il peut se brancher là-dessus des choses bizarres, c'est-à-dire qu'il y a une mission française. Et c'est le nouveau peuple élu, quand même, la France. La France porte beaucoup plus que n'importe quel autre peuple une promesse universelle. Et les Français se comprennent volontiers comme ça, d'ailleurs. Voilà.
En même temps, c'est très paradoxal parce que la Révolution est l'histoire d'un ratage également. C'est-à-dire quand on lit la Révolution, il ne cesse d'expliquer comment et pourquoi la Révolution française a raté parce qu'elle n'a pas su être religieuse.
Il y a ce passage parce qu'elle extraordinaire. Pourquoi la Révolution a raté, oui.
Il y a ce passage extraordinaire où il décrit le ratage de la terreur et il demande quel est l'exemple d'une terreur réussie. Et il prend comme exemple Moïse au désert. Il dit voilà, ça c'est une terreur réussie. C'est l'exemple d'une terreur qui a marché, qui a réussi à refonder un peuple, le désert étant un lieu de terreur. Un lieu de terreur, voilà. Et c'est ce que Robespierre, dit-il, a échoué. Il n'a pas réussi à emmener les Français au désert et à faire sortir un nouveau peuple comme Moïse, lui, avait su le faire. Ce qui est une idée assez extraordinaire, mais qui du coup signale un échec aussi.
Oui, c'est-à-dire que l'échec de la terreur pour Quinet, c'est qu'elle n'a pas été assez terroriste. La terreur, n'ayant pas été assez terroriste, devient un crime et un versement de sang absurde, inutile. Il fallait faire quoi dans la terreur? Il fallait extirper le catholicisme. Mort, pour Quinet, le catholicisme est mort, donc c'est le mort qui attrape le vif, qui empêche la France de se développer. Il fallait que la terreur extirpe le catholicisme de la France. Et c'est ce que la terreur n'a pas fait. Elle a été très timide avec les catholiques, dit-il. Et du coup, elle a tué beaucoup de gens, elle a irrité les religieux, elle a permis la résurrection du catholicisme. Et donc, en ce sens, c'est un ratage total. Mais la terreur a échoué, est un ratage, pas parce qu'elle a été terroriste, mais parce qu'elle ne l'a pas été assez.
Peut-être encore une question.
Oui. Oui, la post-humanité, là, le post-humanisme, oui. Absolument, absolument. Je suis absolument d'accord avec vous, c'est ce que je voulais suggérer au début de mon intervention. Je ne suis pas du tout d'accord avec le diagnostic de Hartog sur le nihilisme supposé de nos contemporains, sur la fête de l'immédiat, sur le fait qu'on n'a rien à foutre d'hier et de demain. Moi, je ne vois pas ça, ni dans les mouvements sociaux, ni dans les colères politiques, ni en effet dans les croyances spontanées. C'est pas la réalisation de l'humanité, etc., mais enfin dans le progrès de la médecine, dans le progrès des techniques, dans la croyance continuée en une pacification possible des rapports. Voilà. Donc j'ai l'impression que là, Hartog, cette thèse sur le présentisme a beaucoup de succès. C'est foncièrement une thèse, je dirais, conservatrice extrême, qui consiste. C'est ce que Durkheim appelait le misonéisme, c'est-à-dire que on déteste tout ce qui est là, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est présent, etc. Et on ne cesse de déblatérer sur nos contemporains qui seraient devenus immoraux, apolitiques, et évidemment donc jouissant de façon vautrée dans le présent. Moi, je ne le vois pas du tout. Donc je suis assez d'accord avec vous. Et en effet, je trouve que c'est une très bonne idée là que vous avez de montrer le succès et l'intérêt des post-humanistes, d'autant qu'il y a quand même des élaborations théoriques très intéressantes du post-humanisme. C'est pas seulement de les dire. En effet, on peut concevoir que l'humanité finisse par se transformer elle-même grâce à une maîtrise technique, à allonger la vie de façon incroyable, à allonger la jeunesse, à se techniciser pour passer à autre chose. C'est pas du tout aberrant. Mais en tout cas, ça témoigne bien de l'idée que nous ne pouvons pas faire notre deuil du Dieu histoire, ça j'en suis persuadé. Hein? Bien sûr. C'est en ce moment, oui. Mais même dans. C'était dans Descartes, déjà. Nous vivrons 1000 ans, nous maîtriserons la.